Bon, bonjour à tous. Bon, c'est toujours une joie d'être témoin de l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ et de l'engagement pour le suivre en retour, un engagement public qu'on a vu avec ces trois baptêmes. Et comme disait Loïc, c'est en même temps l'aboutissement d'une démarche spirituelle, et en même temps, ça n'est que le commencement, c'est les deux à la fois. Et ça va être comme un repère, comme un vœu d'engagement dans vos vies. Et cet attachement à Jésus-Christ va continuer tout au long de votre vie, avec la joie de sa présence, avec le soutien de la communauté, comme il a été dit, mais aussi, comme dans toute vie, avec parfois des épreuves et des difficultés. La vie chrétienne est parfois comparée à un pèlerinage. Nous sommes en chemin. Le chrétien a un résident étranger. Il n'est pas encore pleinement dans son vrai royaume, dans sa vraie patrie, même s'il en a un avant-goût grâce à l'Esprit qui vient en lui. Et puis, la vie chrétienne est aussi à comparer à un combat, celui de la foi. Et le chrétien lui-même peut être comparé des fois à un soldat ou à un athlète. Il y a toujours cette notion de combat, de lutte, de course. Et qui dit combat, dit aussi ennemi, évidemment. Ennemi extérieur, avec le diable, avec le monde, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre société, va à l'encontre de Dieu, des valeurs de l'Évangile. Ça peut être à l'intérieur aussi. Et ennemi intérieur, car jusqu'à ce que nous soyons pleinement délivrés, au retour de Jésus-Christ, nous devrons faire face au péché en nous et le combattre par amour pour Dieu. Évidemment, Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous, en nous sauvant, ne va pas nous laisser seuls dans ces épreuves, dans ces combats. Il a pourvu, il nous a ouvert la voie. Et même, on en voit Jésus-Christ, qui lors de son incarnation sur cette terre, a lui aussi traversé des épreuves. Et justement, nous allons lire un passage connu sur Jésus-Christ et la tentation, en Matthieu 4, versets 1 à 11. On va même commencer en 3:16. On va lire ce passage. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors, le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis, il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Donc, on voit que Jésus se fait baptiser, l'Esprit descend sur lui et son identité de Fils de Dieu est confirmée par une voix venant du ciel. Et juste après, l'Esprit Saint, on voit même d'un passage parallèle en Luc 4, verset 1, qu'il est rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Alors notez bien, c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans l'épreuve, mais c'est le diable qui va le tenter. Et la même épreuve, le même événement, va être vu par le Dieu souverain, parce que c'est lui qui permet cela, et c'est même lui qui guide vers Jésus vers cela, comme un moyen d'affermir notre foi, une occasion de plus d'apprendre à lui faire confiance, ou bien par le diable utilisé comme un moyen de tentation pour nous faire chuter. Mais c'est le même événement. Et par rapport à ce même événement, alors c'est Jésus, puis on fait un parallèle avec notre vie, à qui allons-nous faire confiance? C'est tout l'enjeu de l'épreuve, de la tentation. Donc Jésus, conduit par l'Esprit, se retrouve dans le désert pour être tenté par le diable et rempli de l'Esprit, il va jeûner et méditer la parole. Alors jeûner, c'est cité dans le texte, méditer la parole, cela n'apparaît pas explicitement dans le texte, mais à chacune des tentations du diable, Jésus qui reviennent à la fin des 40 jours, Jésus répond par une citation de la parole de Dieu. Et une citation appropriée, bien à sa place, comme le fruit d'une méditation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, si on regarde l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est nommé fils de Dieu. Par exemple, en Osée 11, verset 1, quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors je l'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte. Quand Moïse va voir Pharaon aussi en Exode, au début de l'Exode, il dit au Pharaon, l'Éternel te dit, Israël est mon fils bien-aimé, laisse-le venir m'adorer dans le désert. Hein ? Chaque fois, Israël est comparé au fils de Dieu, ou en Deutéronome 8, 5 aussi, où il est parlé de Dieu qui éduque Israël comme un père éduque son fils. On y reviendra tout à l'heure. Et si on revient juste au début de ce passage qu'on a lu, au chapitre 3, verset 17, Jésus, en même temps, une voix venant du ciel fait entendre ses paroles, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Jésus a reçu la confirmation que lui aussi est le fils de Dieu, qu'il est son serviteur. En fait, en entrant dans cette tentation, dans ce désert, Jésus a tout à fait conscience, de par sa méditation et ses citations du livre du Deutéronome, par exemple, la première tentation, « L'homme ne vivra pas de pain seulement », c'est Deutéronome 8, 3. La deuxième, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu », c'est le chapitre 6, verset 16. Et la dernière, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte », c'est Deutéronome 6, verset 13. Ça prouve que Jésus a médité ces passages parce qu'il a compris qu'en rentrant dans le désert, comme il était lui-même le fils de Dieu, il est en train de revivre l'histoire qu'a vécu Israël. Et là où Israël a échoué, et il ne faut pas se concentrer sur le fait qu'Israël échouait, mais Israël était comme le représentant de l'humanité. Et bien Jésus va accomplir et réussir là où Israël a échoué, comme il va accomplir et réussir là où nous allons échouer. Et nous allons voir comment cela se fait. Donc, mais juste avant ça, je vais vous lire... Non, on n'a pas besoin de le lire. La citation de Deutéronome. Si on va lire, excusez-moi. On va lire Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 5. Excusez-moi. Alors, c'est projeté. Ouais, c'est pour vous montrer dans quelle optique se trouve Jésus quand il traverse cette tentation au désert. Deutéronome 8 à 5, c'est l'éducation d'Israël au désert. Et il est dit, vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé pour toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. D'autres versions ont « comme un père éduque son fils ». Donc, on voit là que Jésus a conscience que ces 40 jours correspondent aux 40 ans du verset 2. Il va même citer cette parole « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » qui est citée dans ce passage. Et il se reconnaît comme le fils en train d'accomplir... tout ce passage dans le désert en train d'être éduqué par son père, bien qu'il soit fils de Dieu. Et donc on voit que Jésus qui connaît les Écritures, qui les a méditées, il sait que... Et voilà. Donc il se retrouve lui aussi éprouvé dans le désert et il choisit de faire confiance à Dieu, car il sait dans la première tentation que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en son temps, si on retourne à Matthieu 4, au verset 11, qu'est-ce qui se passe ? Dieu va pourvoir et des anges vont le servir à la fin. Donc Jésus connaît les Écritures, il les a méditées, il sait que Dieu a pris soin de son peuple par la manne du temps du Deutéronome et il sait qu'il va prendre soin de lui. Alors la question qui se pose à nous aussi, allons-nous voir l'épreuve comme une occasion de lui faire confiance, de le connaître, de le laisser pourvoir à nos besoins, à sa manière, qui sera meilleure que la nôtre et en son temps. Si on passe à la deuxième tentation, au verset 5, alors là on voit que le diable qui s'était seulement approché au verset 3, là va transporter Jésus sur le haut du temple et le défi de prouver une fois de plus son identité de fils, de sortir d'une relation de confiance avec son père. Le temple, normalement, c'est l'endroit où l'on sert Dieu. Et là, en fait, le diable demande à Jésus de sortir d'une relation de confiance, d'une relation de service. Et le diable, lui aussi, qui est malin, va citer la parole de Dieu, le psaume 91. Mais autant Jésus l'avait cité à propos, lui, il va le citer complètement hors contexte, en tordant le sens. Et si on revient au psaume 91, on ne va pas le lire au complet, mais on va lire quelques versets pour en comprendre la clé. Par exemple, les deux premiers versets qui orientent tout le psaume. « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. » Ce psaume est un psaume de confiance, est un psaume d'un serviteur qui se confie en l'Éternel. Tout le contraire de ce qu'essaye de faire le diable en essayant de faire sortir Jésus de sa dépendance à Dieu. Et si on continue un peu plus loin, au verset 9, il est dit la même chose. « L'Éternel est mon refuge, si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, si tu as fait du Très-Haut ton abri. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. » Et là, il y a la suite de ce que cite le diable au début. « Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre. » Et écoutez le verset 13, que le diable ne va pas citer, évidemment. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Et là, ça n'arrangerait pas le diable d'entendre parler d'un serpent qui va être foulé aux pieds par Jésus, évidemment. Donc on voit que le diable est malin et qu'il cite les choses hors contexte. Donc il est important de méditer la parole de Dieu et de la méditer dans son contexte, de ne pas prendre des petits versets par hasard, parce que ça peut nous faire dire et comprendre des bêtises des fois. Et en parlant de tenter Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça peut être de forcer la main à Dieu, de tenter Dieu? Ce que répond Jésus, tu ne forceras pas la main de ton Dieu. Vous pouvez vous imaginer toutes sortes de situations. Si je prends une décision que je sais ne pas être selon la volonté de Dieu, un choix de vie, une relation dans laquelle je m'engage tout en sachant que cela n'est pas vraiment selon sa volonté, en me disant, eh bien, quand tout cela sera acté, officialisé, ben, Dieu récupérera le coup. Eh bien, je ne reste pas dans une position... Si je me mets là, donc là, je me mets dans une position où je force la main de Dieu, où je le tente plutôt que de lui faire confiance. Jésus, rempli de l'esprit, prie, le jeûne est une forme de prière, et médite la parole. Et en fait, dans la vie chrétienne, je pense qu'il n'y a pas de raccourci pour connaître Dieu. Si vous avez envie de connaître un ami, si vous avez envie de connaître votre femme ou votre mari, vos enfants, eh ben, il n'y a pas de raccourci. Il faut passer du temps avec eux, écouter ce qu'ils vous disent. À combien plus forte raison avec Dieu ? Être rempli de l'esprit, ce qui est le cas de Jésus dans ce passage, et méditer la parole, ce qui est le cas de Jésus dans ce passage aussi, ne s'oppose pas, au contraire. Et même, c'est l'esprit qui a inspiré la parole. Vous voulez être dans l'esprit ? Ben, méditez sa parole. Jésus a donc appris du Deutéronome et répond au diable, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Juste une petite anecdote pour ça, qui fait un petit peu parallèle. J'étais il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, j'étais sur la route en plein été, dans le Vaucluse, pour mon travail. Et puis quelqu'un m'appelle, je réponds en Bluetooth, et puis on parle quelques minutes. Et puis il me dit, tu sais, je sais que tu es en voiture toute la journée, je prie pour toi, pour que Dieu le Seigneur te garde sur la route. Puis bon, moi j'écoute ce frère, et puis ça me passe un peu par-dessus. Je raccroche, oui, merci, je raccroche. Et puis en fait, je me suis rendu compte par après que je ne prenais pas trop au sérieux ce qu'il m'avait dit. Et puis je me retrouve face à un carrefour. Il y avait deux doubles voies, ça circulait beaucoup, c'était l'été, puis c'était une heure de l'après-midi, enfin bref, peut-être pas complètement lucide, et je me suis engagé dans le carrefour, et j'aurais pas dû. Je vois ma femme qui me regarde, je suis là vivant, tout va bien. Donc j'ai traversé le carrefour, comme vous voyez, je suis toujours là, mais j'ai pris des risques, et en sortant du carrefour, je me suis fait un peu peur, je dis, oh là, ouf. Et puis d'un coup, j'ai réalisé que je venais d'être au bénéfice de la prière de ce frère, dont je n'avais pas tenu compte. J'ai remercié le Seigneur. Et ce que ça a fait pour moi, il y a d'autres moments dans ma vie, ça ne l'a pas fait, mais au lieu de me dire, super, Dieu me garde, je peux faire, c'est bon, Dieu me garde, assurance tout risque. Non, je n'ai pas forcé la main de Dieu. Ça m'a poussé dans sa grâce à dire, puisque Dieu me garde, eh bien, je vais être prudent sur la route. Voilà, c'est ça, ne pas forcer la main de Dieu. Jésus n'allait pas se jeter pour que le... Non, Jésus allait rester dans une relation juste avec Dieu, une relation de confiance, que Dieu prenait soin de lui. Et puis, si on revient à notre passage, à Jésus dans l'épreuve, la troisième tentation, ben, c'est la plus radicale, ou peut-être celle où le diable enlève tous ses oripeaux et se montre tel qu'il est. Et le père du mensonge, quand même, hein, parce qu'à même il va introduire un mensonge, c'est ainsi qu'il est présenté, par exemple, dans l'évangile de Jean, entre autres, car chaque fois qu'il parle, il ment, il parle de son propre fond, il n'est pas capable de dire autre chose que des mensonges en parlant. Eh bien, par exemple, si le diable vous accuse d'un péché, même si ce péché a été vrai, en fait, c'est une vérité satanique, parce que Jésus vous a pardonné. Et la vraie vérité qui annule celle du péché, c'est que votre relation avec Dieu a été rétablie. Et vous pouvez lui dire, oui, c'est vrai, mais il est écrit, comme disait Jésus, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Et là, il fait croire à Jésus que c'est lui qui règne sur tout le monde. Or, on voit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui règne sur toute chose. Et que même si le diable a une certaine autorité, il est limité, elle est limitée, elle est donnée par Dieu, et ça ne va pas plus loin que ce que Dieu permet. Et donc, il fait croire ça. Il arrive comme ça. Et Jésus va chasser Satan comment ? En s'appuyant une fois de plus sur les Écritures. Car il est écrit, comme toutes ces autres tentations. La parole incarnée de Dieu, elle-même, Jésus, dans son humanité, s'appuie sur la parole écrite. Il est écrit, l'autorité suprême de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est le cœur du conflit. À qui va aller notre adoration ? Qui allons-nous servir ? Un bon maître, le Seigneur Jésus, ou un maître tyrannique ? Satan et ses serviteurs, alors ça peut être l'argent, la gloire, la richesse, le plaisir pour en lui-même, ou tout ce qui va avoir la première place dans ma vie, qui va faire office de Dieu à la place de Dieu, et qui en fait ne me comblera jamais. À qui va aller mon adoration ? Et à la fin, au verset 11, là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Donc Jésus a choisi de faire confiance à son Père pour combler ses besoins, et à son temps, son Père pourvoit à la fin. Il s'est tenu en tant que fils obéissant et serviteur fidèle, et Satan fuit devant cette soumission au Père. Dieu pourvoit pour son fils qui lui fait confiance. Et cela nous rappelle quelques bornes, quelques repères sur la tentation. Je vais donner 2-3 repères. Il y en a plein d'autres dans la Bible, j'en ai choisi qui m'ont parlé. Par exemple, sur le fait que Satan fuit à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Regardez Jacques 4, versets 6 à 7. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous avez vu l'ordre ? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes tentés, le diable, rappelez-vous, c'est un menteur rusé, le prince de l'illusion, veut nous faire croire qu'elle finira jamais cette tentation. La Bible nous encourage à nous soumettre à Dieu, à prendre le bouclier de sa parole, et il fuira loin de nous. La tentation prend toujours fin, même si le diable essaie de nous faire croire le contraire. Dans le même sens, 1 Corinthiens 10, 13 nous rappelle que les tentations qui vous ont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alors, c'est un verset très riche et très précieux à méditer en temps d'épreuve et même avant l'épreuve pour nous y préparer pour le jour où elle se présentera. L'épreuve, tentation est normale, commune, mais le Dieu souverain il pose des limites. Ça ne sera pas au-delà de nos forces et il va pouvoir au moyen d'en sortir. Et pour les limites posées par Dieu, cela nous encourage à prier aussi selon le Notre Père. Matthieu 6, 13, garde-nous de céder à la tentation et surtout dénivre-nous du diable. Hein ? On voit que c'est le Dieu souverain qui peut nous garder la tentation, qui peut nous délivrer du diable. Et le fait que Dieu soit souverain là-dessus ne va pas nous empêcher de prier en disant Dieu est souverain. Au contraire, ça nous pousse à prier. C'est parce qu'il peut nous garder, parce qu'il peut nous délivrer, parce qu'il en connaît les limites et le moyen d'en sortir, que nous allons nous approcher de lui. Et cette prière nous garde dans l'humilité. On ne s'approche pas de la tentation avec fanfaronnade. Mais même si on sait que Dieu va servir de l'épreuve pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui, on ne la cherche évidemment pas. Et on se rappelle que par nous-mêmes, on ne va pas s'en sortir. On demande la grâce de Dieu pour cela. On cherche sa provision. Et enfin, en parlant du moyen d'en sortir, il y a Hébreux 4, versets 15 et 16, qui nous rappelle, en parlant de Jésus, que nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Que de riches promesses là aussi, hein ? Ce même Jésus que nous avons vu être tenté par le diable saura compatir à nos faiblesses et de son trône. Le trône, c'est l'endroit où il y a la puissance, le règne. Ça veut dire qu'il est capable de nous donner sa grâce. Il en a l'autorité. De son trône de grâce, il va nous accorder la délivrance. Ne nous en privons pas. Allons chercher secours dans les temps d'épreuve. Ne comptons pas, surtout pas, sur nos propres forces. Nous avons un sauveur. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour nous sauver nous-mêmes. C'est pour faire appel à lui. Et enfin, et c'est là mon tout dernier point, Jésus a traversé la tentation pour nous, à notre place. Même si j'ai essayé de dégager des principes qui sont bibliques sur le modèle de Jésus pour traverser la tentation, même si la parole nous rappelle qu'à cause de cela, Jésus peut compatir et offrir secours, comme nous venons de le voir, le premier rôle de Jésus dans les évangiles, c'est d'être notre sauveur, avant d'être notre modèle. Non seulement il a pris notre péché à la croix, il est mort de la mort que nous méritions tous, que je méritais, à ma place. Mais il a aussi vécu à ma place la vie d'obéissance parfaite que je ne réussirai jamais à vivre et que je n'ai pas vécu. Jésus a pris mon péché et m'a donné sa justice. Il a résisté à la tentation là où j'ai échoué. Il est mon remplaçant, mon substitut, celui qui a pris ma place dans tous les domaines pour prendre la malédiction de mon péché et me donner la bénédiction qu'a mérité son obéissance. Et quand je contemple Jésus, son amour pour moi, ce qu'il a traversé pour moi, cela m'émerveille et c'est une profonde source de gratitude et une motivation pour vivre ma vie chrétienne, pour traverser les bons moments comme les temps plus difficiles. Prions. Père, je te remercie de ce que dans ta richesse tu as pourvu pour que nous te soyons fidèles. Merci pour ta parole, pour ton esprit en nous. Merci pour Jésus qui a vécu pour nous et à ma place cette vie parfaite que je ne saurais jamais vivre. Merci de ce que je peux me réfugier en lui pour trouver secours en tout temps. Et merci de ce que ta bonté et ton amour m'accompagnent tous les jours de ma vie et cela jusque dans l'éternité. En ton précieux nom, Jésus. Amen.